Jacques Cartier par G. de Rolin. Le port de Saint-Malo fut, dans le passé, une véritable pépinière de navigateurs qui s'illustrèrent dans tous les genres. C'est là que naquit Jacques Cartier le 31 décembre 1494. Tandis qu'il grandissait, le bruit des découvertes de Christophe Colomb et de Vasco de Gama remplissait le monde. Cartier avait à peine 5 ans que le roi d'Angleterre, Henri VII, envoyait Jean et Sébastien Cabot à la découverte du Labrador, expédition d'ailleurs sans résultat. La France ne pouvait rester en arrière. Désireux de favoriser une expédition du même genre, François Ier songera au pilote Cartier, alors âgé de 40 ans, et qui avait déjà fait plusieurs voyages jusqu'aux Terres-Neuves. 13 ans auparavant, le navigateur florentin Barozzani, alors au service de la France, avait reconnu les côtes du continent américain, depuis l'île du Cap-Breton jusqu'en Floride. Il s'agissait de continuer et de compléter son œuvre en découvrant le fameux passage du Nord-Ouest qui ne devait l'être que 4 siècles plus tard. Le 20 avril 1534, Jacques Cartier met à la voile dans ce but. Ses moyens d'exécution feraient sourire nos contemporains. 2 navires de 60 tonnes montés chacun par 61 hommes d'équipage, c'est tout ce dont il dispose. Aujourd'hui, que nous sommes habitués aux grands navires, munis de tous les perfectionnements de la science, nous demeurons confondus devant l'audace et l'endurance de ces hardis pionniers qui s'élançaient ainsi à l'aventure avec des instruments tout à fait rudimentaires. En y réfléchissant, on comprend mieux le découragement qui parfois s'emparait de leurs équipages, comme il devait en advenir à Cartier lui-même. Après 21 jours de traversée, il atterrit dans la baie de Bonnevue, à l'est de Terre-Neuve. Poursuivant sa route, il entre dans le détroit de Belle-Île, longe la côte sud du Labrador, puis la côte ouest de Terre-Neuve. Cela lui procure l'occasion de faire une découverte imprévue, à savoir que Terre-Neuve est une île. De là, il passe aux îles de la Madeleine, puis pénètre dans le Saint-Laurent qu'il prend pour un golfe. Chemin faisant, il baptise les terres qu'il découvre, ce qui ne lui demande pas de grands efforts d'imagination. La plupart du temps, il prend le nom du Saint du jour, ce qui fait qu'on peut ainsi dater son passage aux différents endroits. Successivement, nous trouvons le Cap Saint-Jean, le Cap Saint-Pierre, la couche Saint-Martin, le Cap Saint-Louis. D'autres appellations sont plus naïves, telles la baie de l'Espérance ou celle de la Chaleur. D'aucunes sont un hommage au roi, comme le Cap Royal et le Cap d'Orléans. Il essaye de passer entre l'île d'Anticosti et le Canada, mais le mauvais temps est tel qu'il se voit forcé d'y renoncer. Revenant par le détroit de Belle-Île, il rentre à Saint-Malo le 5 septembre 1534, après 4 mois et demi de voyage. Outre la certitude que Terre-Neuve n'est qu'une île, il rapporte de précieux renseignements fournis par les sauvages du Saint-Laurent. Ceux-ci ne sont pas toujours faciles à amadouer. En fait d'Européens, ils ne connaissent que les Espagnols, dont ils n'ont pas eu à se louer. La conversation avec eux se fait par gestes. Les relations commerciales se bornent à des échanges en nature, pour lesquels ils apportent surtout des pelleteries souvent communes. Jacques Cartier note que ces indigènes ne mangent jamais de choses où il n'y ait goût de sel. Ils sont larrons à merveille de tout ce qu'ils peuvent dérober. Il faut donc se tenir constamment sur ses gardes. Ayant su faire valoir les données rapportées de ce premier voyage, Jacques Cartier obtient d'en organiser un second mieux pourvu que le précédent. Le 19 mai 1535, ayant reçu la bénédiction pontificale de François Boyer, évêque de Saint-Malo, l'explorateur appareille avec 3 bateaux. Ce sont la Grande Hermine, 220 tonneaux, la Petite Hermine et les Mérions. La tempête le sépare d'abord de ses compagnons qui finissent par le rejoindre à l'embouchure du Saint-Laurent. Après avoir reconnu l'île d'Anticosti, qu'il baptise île de l'Assomption, il entreprend de remonter le fleuve avec sa flottille. Il arrive ainsi à Stadacone, qui sera plus tard Québec. Poussant plus haut, il pénètre en chaloupe dans la rivière Saguenay, ayant repris le Saint-Laurent. Il parvient à Hochelaga, qui sera dénommé Montréal. Là, il fait la connaissance du chef indigène Don Acona, dont il entreprend la conquête. Il réussit tellement bien qu'il conclut un traité avec lui et prend possession du pays au nom du roi de France. Son prestige est énorme vis-à-vis des sauvages, persuadés qu'ils ont affaire à un génie. Dans cette croyance, il lui amène les malades en lui demandant de les guérir. Jacques Cartier n'entend rien à la médecine, mais il ne peut, à aucun prix, avouer son ignorance médicale. Ce serait perdre toute influence sur eux. Comment se tirer de ce mauvais pas ? Pour suppléer à son défaut de science, ils se décident à leur lire des passages de l'Évangile avec accompagnement de signes de croix sur leur tête. Pour corser la cérémonie, il fait sonner les trompettes dont les accents pétrifient d'admiration son auditoire. Du moins, il l'affirme, mais il est muet sur les résultats de cette médication charlatanesque. Pendant son séjour à Hochelaga, le scorbut se met à exercer de véritables ravages parmi ses hommes. Il avait déjà perdu une bonne partie de ses équipages quand les sauvages lui indiquèrent un remède dont l'efficacité ne tarda pas à se manifester. Il s'agissait d'une infusion d'écorce et de feuilles d'un pin austral dont on devait plus tard extraire la térébenthine. Dès que ses marins furent rétablis, il décida de revenir en France où il arriva le 16 juillet 1536. Il avait décidé à le suivre le roi d'Onacona dont l'apparition fit sensation. Le pauvre Port-Rouge, dont le consentement ne fut peut-être pas tout à fait volontaire, ne devait plus revoir son pays. À 1 kilomètre de la côte, sur la limite des paroisses de Paramé et de Limoilou, Jacques Cartier avait fait construire un manoir où il se reposait entre deux campagnes. C'était une modeste demeure, dont les derniers vestiges ont disparu en 1865. Elle se composait d'un seul étage, avec deux pièces, comme au rez-de-chaussée. Une tourelle ronde, en saillie sur la cour, renfermait l'escalier. On entrait dans la propriété par une porte charretière ornée d'un écusson que soutenaient deux anges. Dans le champ de cet écusson figurait uniquement un franc Cartier, arme parlante s'il en fut. Les richesses de la Nouvelle-France, sa conquête, Jacques Cartier ne manqua pas de tracer un tableau des plus flatteurs. Aux avantages réels, il en ajouta pour augmenter l'impression, ce que ne devait pas manquer d'imiter les explorateurs des siècles suivants. Son but était d'accroître l'intérêt que le pays devait porter à cette colonie. À force d'en dire, il le dépassa. Car les appétits s'éveillèrent, les passions s'excitèrent, si bien qu'il obtint la constitution d'une troisième expédition, mais que le commandement lui en échappa. François Ier contribua pour 45 000 livres à l'armement de 5 navires, dont la direction était donnée à Jacques Cartier avec le titre de capitaine général et maître pilote. Un plus puissant que lui, le sieur Jean-François de la Roque, seigneur de Roberval, avait obtenu du roi la charge de vice-roi de la Nouvelle-France avec le droit d'en récolter les trésors et celui de recruter des colons, fût-ce dans les prisons. En l'emmenant avec lui vers cette France de l'éloignement de laquelle il n'avait aucune idée, Cartier avait persuadé à Donnacona qu'il s'agissait d'une simple visite, à l'issue de laquelle il le ramènerait dans son pays. En s'engageant ainsi, il avait bien l'intention de tenir parole. La mort du roi sauvage, survenue dans l'intervalle, vint s'y opposer. Les navires que M. de Roberval équipait à ses frais, n'étant pas encore prêts, celui-ci persuada au maître pilote de partir en avant-coureur. Le 25 mai 1541, Cartier appareilla donc avec ses 5 bateaux. Après avoir essuyé plusieurs tempêtes, il touche à Terre-Neuve, puis se rend dans la rivière Sainte-Croix, où il noue des relations avec le roi Agona. À 4 lieues de là, sur une autre rivière, il fonde la citadelle de Charlesbourg, où il s'établit provisoirement. Ayant renvoyé en Bretagne 2 de ses navires, il entreprend une exploration de l'intérieur en barque. Le courant de Sainte-Marie, le rapide de la Chine et le sceau de Saint-Louis sont reconnus par lui. Sur les 2 plus petits de ses bateaux, il tente de remonter le Saint-Laurent, mais il ne parvient pas plus haut que la rivière du Cap-Rouge à 7 000 en avant de Québec. Cependant, ses provisions s'épuisent, le froid commence à devenir rigoureux et les indigènes à manifester une réelle mauvaise volonté. Entre l'Eldorado que des récits faisaient entrevoir et les vicissitudes de la réalité, l'écart est vraiment trop grand. Un vent de révolte souffle parmi ces hommes. À bout de patience, ils entendent le contraindre à retourner au pays. Dans le récit de son premier voyage, il mentionnait déjà « Nous assemblâmes tous les capitaines, pilotes, maîtres et compagnons pour voir l'opinion et avis de ce qu'il était bon de faire. » Et cet avis avait été que les tourmentes commençaient en Isle-Luttant, en la Terre-Neuve, et que nous étions bien loin et ne savions les dangers qui étaient entre eux, qu'il était temps de s'en retourner. Cette fois, les marins n'attendaient pas qu'on leur demandât leur avis. Ils l'imposaient. Christophe Colomb avait failli être victime d'une manœuvre semblable au moment même où il allait découvrir l'Amérique. Avec son expérience des hommes, Cartier sentit qu'il n'y avait pas à résister. Peut-être la perspective de l'arrivée prochaine d'un maître en la personne de M. de Roberval ne fut-elle pas étrangère à son manque de résistance. Précisément, ils la rencontrèrent à la hauteur de Terre-Neuve qui apportait des provisions et des renforts. Le 21 octobre 1542, il était de retour à Saint-Malo pour n'en plus repartir. Que devint-il ensuite, on l'ignore. Nous ne connaissons même pas la date exacte de sa mort. Tout ce que nous savons, c'est qu'à partir de 1552, les actes de la ville de Saint-Malo ne font plus aucune mention de son nom. Ce silence, cette disparition d'un homme dont le nom avait été sur toutes les lèvres, semble si extraordinaire qu'on a peine à y croire. Cependant, nous ne devons pas oublier les regrets contenus dans la préface de la relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada. L'auteur se plaint de l'indifférence des Français en matière coloniale et de leur insouciance à faire valoir leur découverte. Il en donne comme preuve le fait suivant. Au XVIIe siècle, il existait trois versions de la relation de ce premier voyage. L'une, en italien, avait pour auteur Ramusio. La seconde, en anglais, était de Hacklind. Quant à la troisième, en français, ce n'était qu'une traduction due à Raphaël du Petit-Val. Cette indifférence allait se perpétuer jusqu'à nos jours. Elle allait nous coûter fort cher, à commencer par la perte du magnifique domaine que le hardi pilote avait assuré à notre pays par droit d'antériorité. On serait heureux d'avoir plus de détails sur la vie de notre premier explorateur maritime. Ainsi que bien des précurseurs, ce fut un méconnu. Dans un moment de mauvaise humeur, François Ier s'était écrié « Où donc est l'article du testament d'Adam qui me déshérite du nouveau monde au profit des rois d'Espagne et de Portugal ?» Jacques Cartier, en réponse, lui donna un territoire beaucoup plus grand que la France, le Canada, en langage indigène, Canada avec un K, à main de case. Si l'or qu'il avait annoncé fut reconnu pour du cuivre, si les diamants éblouissants n'étaient que du vulgaire mica, ce n'était pas moins une contrée riche, la suite l'a prouvé, où déjà des fortunes pouvaient être réalisées rien que dans le commerce des pelleteries. On lui doit aussi la première mention de l'existence du tabac, avec l'indication de la façon dont s'en servaient les Indiens. On connaît la boutade dédaigneuse de Voltaire concernant les quelques arpents de neige du Canada. Le 10 février 1763, à la suite de la guerre de 7 ans, l'absence de moyens de défense maritime nous contraignait de céder la Nouvelle-France à l'Angleterre. Et ces quelques arpents de neige, sur lesquels prospèrent encore, à l'heure actuelle, quelques millions de citoyens parlant notre langue, n'en constituent pas moins un des plus beaux fleurons de la couronne coloniale britannique. Souvenons-nous de la leçon, que dans l'avenir, notre domaine colonial actuel, si riche de possibilités, n'éprouve pas le même sort. Ainsi s'achève Jacques Cartier, par G. de Rolin.